Alors moi je suis Simon Audebert, d'ailleurs oui, je me suis pas présenté, moi je travaille à la Fondation de l'écologie politique et je suis spécialiste notamment du vote dans les territoires ruraux. Et donc j'ai le plaisir du coup d'animer cette discussion avec Éric Charme, qui est directeur de recherche à l'ENTPE et spécialiste des études urbaines, de l'urbanisme et de l'aménagement. Donc voilà, comme je vous le disais, je vous propose 20 minutes, une vingtaine de minutes pour introduire le sujet, pour poser justement le débat, et ensuite on pourra prendre des questions et continuer la discussion de cette façon avec vos questions.
Bien, et ben voilà, donc Éric Charme, c'est moi. Merci de m'avoir invité à intervenir sur cette question un peu provocatrice, hein, poser cette question, modèle d'avenir, la France pavillonnaire, aux rencontres de l'écologie politique. Ça, c'est une question, je ne sais même pas si il y a une dizaine d'années on aurait pu la poser, mais là elle est posée. Vous avez fait référence, enfin, à un article que j'ai publié effectivement sur le site de la Vie des idées en 2022, qui est en accès libre si ça vous intéresse. Donc je ne vais pas vraiment, enfin, après peut-être pendant les questions on pourra revenir sur le contenu de cet article, mais je vais apporter peut-être des éléments nouveaux par rapport à ce que, en tout cas pour moi, par rapport à ce que j'écris dans cet article. Alors si j'avais écrit un article donc, qui s'appelle Haro sur le pavillon avec un point d'interrogation, je vais essayer d'expliquer le contexte un peu. Donc c'était en réaction à une polémique qui était née de propos d'Emmanuelle Wargon. Alors Emmanuelle Wargon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, en 2021, elle était ministre du Logement. Et le ministère avait lancé une grande consultation sur l'habitat de demain. Et elle avait énoncé ce qui, pour beaucoup d'urbanistes, d'aménageurs et beaucoup de monde, en fait, beaucoup de spécialistes, était une évidence. Le modèle pavillonnaire était un non-sens écologique, économique et social. Donc elle avait, voilà, la totale. Et ça avait suscité tout de suite une levée de boucliers assez virulente, à droite notamment. Alors on connaît les liens entre les milieux économiques et la construction de maisons individuelles. J'y reviendrai un tout petit peu sans trop m'appesantir sur le sujet. Mais ce qui me paraissait intéressant, c'était d'essayer d'examiner jusqu'où cette critique était valable. Alors pourquoi se poser cette question, je vais y revenir, mais c'était mon idée, mais pas avec un point de vue, je dirais, de défense des milieux économiques qui sont liés à la construction de maisons individuelles, mais plutôt en regardant la question du point de vue des enjeux écologiques actuels. Alors, Emmanuelle Wargon, d'abord, vous voyez le titre de Ouest France, c'est Les maisons individuelles, un non-sens écologique. D'ailleurs, quand elle a critiqué les pavillons, tout le monde a compris, alors certains de plus ou moins bonne foi, les maisons individuelles. Alors elle a dit, mais non, ce n'est pas la maison individuelle que j'attaque. Et d'ailleurs, elle aurait été bien, je dirais, en peine de le faire parce qu'elle-même habite une maison, alors dans une banlieue relativement aisée de Paris. Elle dit, ce n'est pas la maison que j'attaque, c'est le modèle pavillonnaire. Alors le modèle pavillonnaire, qu'est-ce qu'elle attaque derrière ça? Bah, ça, c'est une image. Hein, c'est des clichés de Jean-Pierre Attal que vous pouvez trouver assez facilement sur son site. C'est la série Intramuros. Alors vous voyez bien, hein, ce n'est pas seulement la maison, là c'est la série de maisons. On voit bien derrière un certain nombre de questions posées sur l'uniformité architecturale, l'absence d'intégration dans les paysages, etc., etc. Et puis derrière le modèle pavillonnaire, c'est aussi ce que Télérama, dans une qui est devenue quasi mythique, je dirais, dans les mondes de l'aménagement et de l'urbanisme, en 2010, a appelé la France moche. Alors ça a suscité tout un ensemble de débats, mais ça c'est pas l'occasion d'en discuter maintenant. Mais derrière ce type d'habitat que je viens de montrer, c'est aussi la zone d'activité, la zone commerciale, la dépendance automobile, l'artificialisation des sols, et au-delà de la question de la dépendance automobile et des enjeux écologiques, ce sont aussi des enjeux sociaux et économiques. Là, je vous mets la couverture d'un numéro assez important sur ce sujet d'actes de la recherche en sciences sociales, qui est la revue fondée par Pierre Bourdieu, avec un dossier publié en 1990 consacré à l'économie de la maison, avec toute une série de l'article. Alors, ce qui est très impressionnant, d'ailleurs, c'est que Pierre Bourdieu a presque écrit ou coécrit tous les articles du numéro. Et on voit bien, la couverture dit tout. Hein. Vous voyez, les bidochons, pour ceux qui se rappellent ou connaissent les bidochons, c'est bien derrière tout un rapport au monde, un rapport à la politique. Voilà, le consumérisme, le contentement du petit propriétaire. Et qui a d'ailleurs bien du mal à faire face à ces traites. Ça, c'est ce que expliquent certains articles de ce numéro. Hein. L'ouvrier, l'employé qui se fait piéger par les rêves petits bourgeois que lui viandent les lotisseurs et les aménageurs. Donc, il y a aussi tout ça derrière la critique du modèle pavillonnaire et derrière aussi de l'habitat individuel. Alors, donc, je disais, Emmanuelle Wargon, elle a dit non, c'est pas la maison que j'attaque, je suis pas en train de stigmatiser la maison, mais c'est quand même plutôt quelque chose de plus large qui est le modèle pavillonnaire. Sauf que si les médias et les journalistes, et puis un certain nombre d'opposants politiques ont compris maison individuelle, c'est pas totalement un hasard, c'est que ça fait fond sur une idée qui flotte, qui est que le problème aujourd'hui, c'est la maison individuelle, et particulièrement sur le plan écologique. Alors, je vais juste donner un exemple. C'est un papier qui a été publié il n'y a pas très longtemps, je n'ai plus la date en tête, mais bon, c'est peut-être 2 ans, par Jean-Yves Dornagen, ou Dormagin, comment on dit ? Dormagin, voilà. Bon. Donc Jean-Yves Dormagin, qui est un politiste, mais qui a aussi qui gère ou qui administre, je ne sais pas, un institut de sondage qui s'appelle Cluster 7, hein, c'est ça, me semble-t-il. 17. 17, voilà. Merci pour la précision. Et donc, alors peut-être 17, d'ailleurs, c'est lié à tous ces clusters à partir desquels il travaille. Ça doit être ça. Mais je suis en train de faire le lien. Donc, c'est un institut de sondage qui a une certaine importance. Et donc, il publie dans Le Grand Continent une enquête sur comprendre le nouveau clivage écologique, et il regarde jusqu'où un certain nombre de ces clusters, justement. Donc dedans, vous avez les multiculturalistes, les sociodémocrates, les progressistes, les solidaires, les centristes, les révoltés, les apolitiques, les socio-républicains, jusqu'aux identitaires tout en bas, avec avant eux les anti-assistanats, enfin, vous voyez le style. Donc vous avez toute une série de groupes rassemblés selon un certain nombre d'orientations politiques, et il évalue à quoi ils sont prêts à renoncer face aux crises écologiques pour avancer sur la transition. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une des questions, par exemple, c'est l'avion. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à prendre l'avion? Et ils constatent que les ouvriers sont assez prêts à renoncer à prendre l'avion vu qu'ils ne le prennent pas, que les cadres, c'est un peu plus compliqué, par exemple. Et puis, une des questions, donc je dis, vous voyez, une des questions, donc c'est êtes-vous prêt à renoncer à l'avion? Et une autre des questions, c'est êtes-vous prêt à renoncer à la maison individuelle? C'est placé sur le même plan dans son analyse. Donc là, on comprend bien, en fait, pourquoi les propos d'Emmanuelle Wargon n'ont pas été compris comme une attaque du modèle pavillonnaire, c'est-à-dire un type de maison, mais bien la maison elle-même, puisque, voilà, dans quelqu'un quand même d'assez savant, qui publie dans une revue très savante, installé dans un des hauts lieux de la pensée en France. Donc, c'est la maison individuelle. Alors, le gros problème, c'est que les gens ne sont pas prêts. Mais alors, massivement pas prêts. C'est 77% de la population. Autant dire que ça va quand même être compliqué. Et y compris les plus bas scores, hein, c'est 41% chez les révoltés. Donc les révoltés sont plus prêts que les autres à s'opposer, à renoncer à la maison de l'individu individuelle. C'est seulement 41% d'entre eux qui ne sont pas prêts, 59% qui sont prêts. Mais si on prend les progressistes, c'est 63% qui ne sont pas prêts. Donc on a quand même un certain problème. Et si on regarde d'un point de vue géographique, dans les communes de moins de 3000 habitants, donc disons dans des communes en gros qu'on dirait rurales ou des campagnes, c'est 94% de la population qui n'est pas prête. Donc autant dire que ça va quand même être sacrément compliqué. Alors, ça c'est un premier constat. Bon, après on pourrait se dire c'est pas parce que les gens ne sont pas prêts qu'il ne faut pas faire. Hein. Les gens, ils ont envie de plein de choses et ce n'est pas une raison. On n'est pas obligé de satisfaire à tous les désirs, à toutes les demandes, si celles-ci ne sont pas raisonnables et en tout cas font obstacle aux réponses qu'il convient d'apporter aux crises écologiques auxquelles on fait face. Maintenant, le problème, c'est que c'est 55% du stock de logements, l'habitat individuel. Alors, dans l'habitat individuel, vous avez les pavillons, vous avez les châteaux, vous avez les fermes, vous avez les maisons de ville sans terrain, sans voilà, vous avez tout type d'habitat, mais enfin, c'est quand même 55% du stock de logements. Et surtout, c'est deux tiers de la population française, parce que comme c'est des logements plus grands, il y a plus souvent des familles avec des enfants, donc c'est plus de monde. Donc, vous vous attaquez quand même à deux tiers de la population française. Et par ailleurs, sondage après sondage, j'ai pris le dernier que j'ai pu trouver lorsque j'ai préparé la présentation. Vous voyez, j'avais travaillé mon petit diaporama, donc c'est pour ça que je voulais le montrer. Mais vous verrez que... Donc, c'est 2025, la maison individuelle reste le logement préféré des Français à 80%. Donc, ça veut dire que dans le tiers qui reste, qui n'habite pas des maisons, je caricature un peu, mais vous en avez encore la moitié qui aimerait bien habiter une maison individuelle. Et puis, ceux qui n'ont pas de jardin aimeraient avoir un jardin, enfin... Vous voyez que là, vous vous heurtez à quand même une attente assez forte et qui est fondée sur l'expérience. Bon, c'est toujours pas une raison pour faire, je dirais, répondre à ces demandes, mais enfin, c'est quand même un élément du contexte. Hein. Par ailleurs, le truc, c'est que c'est quand même un type d'habitat qui n'est pas juste un habitat bourgeois, qui est aussi un habitat populaire. Vous voyez, on se pose beaucoup la question de l'écologie populaire et des alliances de classe et comment on arrive à construire des plateformes politiques qui peuvent constituer des majorités pour arriver à avancer. Donc l'habitat individuel, c'est aussi, c'est pas seulement la maison d'Emmanuel Wargon, c'est aussi de l'habitat ouvrier. C'est un des vecteurs principaux d'accession à la propriété pour les classes populaires, en partie parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Ce qu'il y a de moins cher parce qu'en fait, alors ça c'est souvent, on trouve des terrains, enfin on trouvait maintenant, c'est plus vraiment le cas depuis quelques années, mais enfin jusque dans les années 2010, disons avant la crise sanitaire qui a été suivie par la guerre en Ukraine et puis le contexte actuel, donc le ZAN aussi qui réduit l'offre foncière, mais jusqu'à peu, on trouvait des terrains pas chers à bâtir, hein, la terre agricole et c'est, si, c'est 10 000 euros, si, enfin moins de 10 000 euros l'hectare, souvent 6 000 en moyenne en France. Ensuite, si vous l'aménagez, vous aviez des terrains à bâtir à 10 000 euros assez fréquemment. Et dessus, vous mettiez une maison que vous pouviez en partie construire vous-même. Parce que, alors, quand vous habitez dans un appartement, c'est plus compliqué de faire des travaux vous-même. Et même si vous ne faites pas les travaux, c'est moins cher de construire d'habitat individuel au mètre carré habitable que du collectif. Parce qu'il y a tout un ensemble de contraintes, et puis il y a des espaces partagés, et puis les techniques constructives, les normes qui s'imposent face à ces techniques constructives. Mais l'écart... En un même lieu, c'est de l'ordre de 50%, c'est-à-dire que là où vous avez 90 mètres carrés pour 100 000 euros, enfin en tout cas dans les années 2010, aujourd'hui c'est plutôt 50% voire 200% plus cher, mais le collectif c'est 50% de plus, au minimum. Donc vous voyez, ça fait un gros écart hein, quand vous parlez de 100 000 ou de 150 000, quand vous parlez de 150 000 ou de 225 000, c'est pas, il y a un moment les gens ils peuvent et puis à un autre moment ils ne peuvent pas. Donc, il y a cette question-là qui est quand même très importante et on a vu hein, comment des mesures qui étaient favorables, alors là je crois que je vais exploser mes 20 minutes, mais on va quand même avoir du temps pour discuter, mais comment des mesures qui pouvaient être considérées comme favorables à l'écologie comme la taxe carbone, lorsqu'on les met en place et qu'elles vont à l'encontre des intérêts ou même qu'elles mettent en cause la capacité des classes populaires et même moyennes à boucler leur fin de mois, ça, on se heurte à des murs assez bien résistants. Donc ça, c'est quand même un des aspects qu'il faut aussi ne pas négliger. Alors, on pourrait se poser la question de, pareil, jusqu'où il faut que les gens puissent devenir propriétaires. Ça, c'est une vraie question. Alors, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais je rappelle quand même que peut-être qu'on peut en débattre, mais si... D'abord, dans le quartile, donc les 25% les plus aisés en France, c'est 88% qui sont propriétaires. Dans le premier, quartile, donc les 25% les moins aisés, c'est 33% qui sont propriétaires. Donc, il faut peut-être commencer par là. Et puis après, et puis peut-être rappeler hein, que Proudhon, qui est célèbre pour avoir pour cette formule, hein, la propriété c'est le vol, mais il défendait en même temps la petite propriété comme source d'autonomie et de liberté. Et c'est un sujet tout à fait compliqué. Donc dans ce contexte, j'ai voulu me poser la question de jusqu'où on pourrait, plutôt que d'avoir la méthode karaté, c'est-à-dire de dire aux gens « bon, ben, la maison individuelle, c'est fini, on ne peut plus, il faut tous se mettre dans des appartements, dans des villes », essayer d'avoir, vous voyez, la méthode plus aïkido, de voir comment on peut faire avec les maisons individuelles plutôt que contre. Et donc, dans l'article de la Vie des idées, je reprenais un certain nombre d'éléments c'est un peu une revue de littérature aussi, hein, sur la question de l'isolation, sur la question de la mobilité, on pourra y revenir si vous le souhaitez, sur aussi sur un certain nombre d'enjeux, notamment par rapport aux consommations d'énergie. Et aussi, je mettais en évidence l'importance des jardins. Alors, la maison, elle a une caractéristique, c'est qu'il y a un jardin. Alors, les jardins, en France, aujourd'hui, il y a une formule qui a été assez bien trouvée dans un bouquin de c'est Jérôme Fourquet et Laurent Casly. C'est La France sous nos yeux, ce livre. Alors, il y a pas mal de choses à discuter, mais il y a tout un tas de trucs qui sont aussi tout à fait intéressants. Et il parlait du modèle Plaza majoritaire. Alors, c'était avant que Stéphane Plaza soit poussé hors des écrans. C'est l'idée de, vous voyez, la maison, mais avec le jardin, avec une pelouse bien rase, une jolie terrasse, une piscine. Pas vraiment un jardin écologique. Mais ça, ce n'est pas forcément une fatalité. Alors, ça, je n'en parle pas dans l'article de la... Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça? Personne. Ah bah ça, au moins, je ne serais pas venu pour rien. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la permaculture? Ah, là, oui. Est-ce qu'il connaît David Holmgren? C'est un des fondateurs, avec Bill Mollison, de la permaculture. Pardon? Ah oui, voilà. Alors, je vais vous parler de permaculture. L'auteur de ce livre, c'est David Holmgren. Précisément. Donc, un des fondateurs de la permaculture, c'est sa dernière. Il publie régulièrement des articles sur un blog. Ça, c'est une de ses. 2018, c'est donc une de ses principales productions. Il y a un site que vous pouvez aller consulter. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est pas tellement connu. 2018, c'est assez récent. David Holmgren, c'est quand même quelqu'un qui est mondialement connu, mais ça, c'est pas tellement connu. Alors, c'est pas traduit en français. Il y a une maison d'édition qui se pose la question de le traduire en français. L'idée de Retro Suburbia, c'est de se dire... L'idée de Retro Suburbia, c'est de se dire, vous voyez, le principe de la permaculture, c'est faire avec ce qu'on a. Justement, vous voyez, plutôt que la méthode karaté, donc la méthode plutôt aïkido, on va utiliser les dynamiques préexistantes pour aller dans le sens qui nous intéresse. Et donc David Holmgren, vous le savez, il vit en Australie, à Melbourne, dans un espace qui s'appelle Meliodora, et il constate qu'en Australie, les gens, ils habitent dans ce genre d'espace. En France, on appellerait la banlieue pavillonnaire, mais encore plus lâche qu'en France. Hein, et puis, desservi par, vous savez, ce maillage orthogonal, ce quadrillage de voies, souvent très large, je vous en montrerai tout à l'heure. Il se dit, la plupart des gens, ils habitent là-dedans, c'est là-dedans qu'ils ont envie d'habiter. Après tout, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas avec ça? Et on n'appliquerait pas les principes de la permaculture dans ce type d'espace. Alors, si ça vous intéresse et que vous parlez anglais, mais vous savez, maintenant, il y a les outils de traduction automatique. Il y a toute une série d'études de cas. Alors, l'idée, c'est si vous êtes un habitant de Melbourne, ça peut presque, ou d'un Australien, ça peut presque se présenter comme un ensemble de recettes sur comment appliquer les principes de la permaculture dans ce type d'environnement urbain. Alors, mais du point de vue de David Holmgren, ce n'est pas des recettes. C'est-à-dire, il reste à les. Pour traduire le livre, c'est pour ça que si on respecte l'esprit dans lequel il a été écrit, on ne peut pas traduire le livre, il faudrait aller trouver tout un ensemble de cas qui seraient inspirants en France. Bah, ça nécessite, donc là c'est un peu plus compliqué que d'aller juste voilà, passer du français à l'anglais. Donc c'est pour ça que pour l'instant ça n'est pas traduit. Mais des gens y pensent. Alors, puisque les images, je vais mettre le micro sur le son, je vais vous montrer une petite vidéo, elle dure 5 minutes. Ensuite, je vous donnerai quelques éléments de contexte supplémentaires et après on pourra discuter. Mais bon, j'ai déjà mes 22 minutes, mais bon, peut-être ça vaut le coup de regarder la vidéo. Surtout si. Alors, je vais essayer de trouver le lien. Ah non, c'est avec ça la souris. Donc voilà, alors, vous voyez que ça, c'est le plan du terrain. Il fait. Ah oui, pardon. Ah oui, alors, donc ça, c'est le plan du terrain qui fait. Ça va m'éviter de crier. Qui fait 1000 mètres carrés. Alors, 1000 mètres carrés, c'est grand pour un terrain de pavillonnaire, mais en France, dans ce que, en tout cas, dans. Les derniers, avec la maison dessus, ouais. Donc, en France, la superficie moyenne des parcelles de ce que l'INSEE appelle le périurbain, enfin, ce n'est pas des données très récentes, mais en tout cas dans les années 2010, on va dire, c'était 1000 mètres carrés. Alors, on n'est pas dans une superficie complètement déconnectée de la réalité de l'occupation géographique par l'habitat individuel en France. Ça, c'est le premier point. Et c'est ce qui fait que ça me semble tout à fait intéressant. Donc, vous voyez que là, il y a voilà, une réflexion sur l'implantation. Ils ont choisi effectivement de partager une maison qui était assez grande plutôt que de reconstruire plusieurs logements. Et puis, vous avez donc un poulailler, tout un ensemble. Alors, ça fait 600 pages, hein, le livre Rétro Superbia. Donc, vous avez tout un tas d'idées à piocher. Alors, moi, ce qui m'intéresse par rapport à une réflexion, je dirais, en urbanisme sur l'habitat individuel et le modèle pavillonnaire, c'est que cette maison que vous venez de voir, eh ben, c'est là. Elle est là. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est la banlieue pavillonnaire, on est vraiment au milieu dedans, au milieu. En vue aérienne, ben, on est. Alors on ne le voit pas bien, mais vous voyez le petit point rouge là, au milieu de la photo. Donc on est là. Et si on élargit un peu. On est Beaconsfield apparaît au milieu là-bas, donc et là on est Ecoburbia et là, donc on est quand même pas trop mal placé hein, par rapport à Perth, mais vous voyez que c'est quand même dans un environnement pavillonnaire que ça se passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est pas alors, évidemment que c'est ce couple a des propriétés sociales, des caractéristiques qui font qu'on peut se demander jusqu'où tout ça est reproductible et jusqu'où on peut en faire construire un projet politique d'ensemble, de masse, à partir de ça. Cela étant, bah, vous voyez qu'ils ont quand même pas mal d'activités avec leur voisinage et que ça inspire un certain nombre de gens. Alors, toute la question, bien sûr, c'est de savoir, alors, évidemment, ce qui est intéressant d'un point de vue intellectuel, c'est que par rapport au débat avec lequel j'ai commencé, qui présente le modèle pavillonnaire comme la dystopie écologique en quelque sorte, et qui s'étend même jusqu'à une critique de l'habitat individuel, qui serait ce à quoi il faudrait renoncer pour faire face aux crises écologiques, là on a, avec quand même, je dirais, porté par David Holmgren, donc qui est quand même sur la question écologique et une référence, je dirais, assez. On peut discuter de ses idées, mais enfin quand même une référence majeure. Et on a là un livre et un ensemble de propositions qui ferait presque de l'habitat individuel et même mieux que ça, des quartiers pavillonnaires, les lieux d'une forme d'utopie écologique. Parce que c'est peut-être plutôt là qu'on peut descendre sous les 2 tonnes et qu'ils continuent à travailler, ils continuent à avoir d'autres activités. Ils vivent pas de leur. C'est ce qui est montré dans la vidéo. Continue à avoir d'autres activités. C'est peut-être plus là que dans l'habitat collectif. Encore une fois, on pourrait dire, oui, mais c'est complètement utopique. Justement, ce qui est là, avec l'habitat individuel, c'est tout un rapport au monde, c'est tout un, et surtout l'habitat pavillonnaire, c'est tout un ensemble de choses contre lesquelles il sera très difficile d'aller, notamment ce fameux modèle plaza majoritaire. Oui. Mais après tout, je pense que vous avez peut-être entendu parler de Geneviève Prouveau ou d'Aurélien Berland, qui sont aujourd'hui des figures intellectuelles majeures des pensées de l'écologie politique. Aurélien Berland, dans cette interview qu'il a accordée il y a déjà quelques années à Libération, il se présente devant une yourte dans laquelle il habite. Et puis Geneviève Prouveau est connue pour un travail qu'elle a mené sur un couple, une famille même de paysans boulangers qui habitent eux-mêmes une yourte. On peut se poser la question de jusqu'où ce modèle est plus diffusable ou appropriable à large échelle par une large, et valorisable par une large part de la population que celui que je viens de vous présenter. Je pense que là-dessus, voilà. Alors, une autre des questions qu'on peut se poser, c'est oui, j'avais rajouté une autre diapositive, mais en fait, elle n'était pas sur la clé USB. J'avais fait ça dans le train. C'est aussi les pratiques potagères. Oui, bon, mais c'est ce que suggère un peu l'image d'ailleurs. Hein, c'est un truc de bobo. C'est une mode, etc. Oui, mais. Aujourd'hui, alors la dernière étude disponible a été publiée en 2017 par l'INSEE, c'est 19% des ménages, ou même 20%, je ne sais plus, enfin, okay, c'est à un point près, qui se nourrissent pour partie de leur potager ou de leur verger. Et ça représenterait, d'après l'INSEE, 23, c'est un chiffre qui est sans doute surestimé, mais. Quand même, c'est publié par l'INSEE, 23% de la consommation de légumes à domicile de l'ensemble des ménages français. 23% de l'ensemble des ménages. Ça veut dire que dans les potagers, il y a beaucoup de gens, ils donnent à leurs voisins. Donc il y a ceux qui n'ont pas de potager mais qui en profitent quand même. Et puis, il y a beaucoup de gens qui, justement, parce qu'ils n'ont pas de possibilité de produire des légumes, ils n'en mangent pas. Parce que c'est trop cher. Donc. Vous voyez, on est quand même là dans des chiffres aujourd'hui, dans des pratiques qui excèdent le vélo utilitaire pour aller travailler. Donc là encore, on a un terreau, un substrat social. Alors la question, bien sûr, c'est aujourd'hui le potager. Hein, ce retraité voit son potager récompensé pour la 12e fois. On voit bien que c'est A priori, c'est peut-être pas tout à fait un potager en permaculture. En tout cas, il n'y a pas de but dont vous parliez tout à l'heure. Et surtout, c'est un retraité. Et vous voyez, il y a un contraste entre l'image. Il tenait un bar d'ailleurs avant d'être retraité. Et on voit bien le contraste entre, hein, je dirais sociologiquement, c'est de la sociologie à la hache, mais on voit bien le contraste entre cette image et la précédente. Donc jusqu'où il peut y avoir des intérêts convergents, jusqu'où on peut construire un discours politique associant ces pratiques potagères avec les idées que je viens de présenter. Donc ça, c'est une question ouverte dont on pourra peut-être peut-être discuter, mais en tout cas, et je m'arrête là en ayant été beaucoup trop long, mais voyez bien. La réponse qu'on peut apporter, c'est-à-dire c'est l'idée d'aller se dire comment on travaille le modèle pavillonnaire, comment on le réenchante. Il y a certains collègues qui parlent de réenchanter le modèle pavillonnaire d'un point de vue écologique.
Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de faire passer un petit peu comme on peut le micro pour poser des questions. Il faudrait vraiment essayer de bien parler dans le micro pour l'enregistrement. Donc je vais essayer. Il y en a un plus long. Ah, super. On va y arriver avec la logistique. J'ai vu du coup des mains qui se levaient. On va peut-être prendre une série de deux, trois questions, une réponse et en reprendre juste après.
Moi, je me disais que c'était peut-être pas forcément antinomique de renoncer au modèle pavillonnaire à l'avenir, en fait, sur les nouvelles artificialisations des sols, et que là, l'idée, c'était, et qui se complète, c'est comment transformer ce qui existe déjà en un modèle plus écologique, plus comme on a vu dans la vidéo. C'est peut-être ça l'enjeu, en fait. C'est pas d'opposer les deux modèles, mais de favoriser sur les constructions à venir du collectif, du vertical, avec peut-être en pensant aussi à des jardins collectifs, puisque c'est quelque chose que les gens auxquels ils aspirent, et légitimement, mais aussi, enfin voilà, pour moi, c'est deux mouvements qu'on ne devrait pas opposer, en fait.
Merci. Une remarque qui pourrait enthousiasmé pour donner envie d'eux, je dirais, c'est, je crois qu'il y a un débat pour faire entrer les jardins des maisons individuelles dans le ZAN et qu'il faudrait établir des critères pour pouvoir entrer si ton jardin, effectivement, est ouvert à la biodiversité. Donc, je sais que la LPO propose de faire des refuges, que des maisons individuelles deviennent refuges LPO et que, effectivement, tous ces jardins trop tondus, etc., pourraient être une grosse réserve de biodiversité. Il faudrait retravailler les clôtures, etc. Mais il y a effectivement des choses qui pourraient inciter à donner envie d'eux, si ensuite. Alors, c'est peut-être pas une bonne chose que de mettre dans le ZAN, hein, mais c'était histoire de dire qu'il y avait un débat.
J'ai vu quatre questions, j'en prends une dernière et je reviendrai vers la salle.
Merci beaucoup. Du coup, sur ce que vous avez dit, j'avais une question sur la mobilité, parce que j'ai bien compris que du coup, ça venait notamment avec le dernier modèle qui était présenté sur une concentration quand même des habitats dans des plus petits espaces. Mais j'ai l'impression que c'est quand même très dépendant encore de l'automobile. Est-ce que vous avez pu un petit peu modéliser la capacité à mettre des transports en commun via, si on généralisait par exemple le modèle qui était présenté dans la vidéo? Et une deuxième question sur est-ce que vous avez pu aussi un petit peu chiffrer l'impact en termes de baisse d'émissions, de baisse de l'artificialisation de ce genre de modèle? Est-ce que ça serait suffisant pour répondre un petit peu à la crise en fait vraiment de biodiversité et d'artificialisation? Merci.
Alors, je vais répondre sur la mobilité, puis je vais revenir sur le ZAN. Vous voyez, j'avais anticipé quelques questions, mais il y a deux articles là. Les cahiers scientifiques du transport. En fait, je les ai écrits avec Charles Rau, RAUX, Eric Charme. Normalement, ils sont en ligne, accessibles, si ça vous intéresse. Alors, c'est des articles scientifiques, hein, donc là, pour le coup, c'est pas l'avis des idées. Je dirais, l'idée, c'est de s'adresser à un public qui n'est pas que de pairs. Là, voilà. Mais en gros, on a fait un travail de simulation prospectif sur la mobilité à horizon 2050 dans le nord-ouest de Lyon. Donc dans des territoires périurbains dominés par l'habitat individuel, alors beaucoup de gens diraient c'est plutôt la campagne. Les deux grands leviers, alors là c'était avant 2020, il y a un des leviers c'était le covoiturage. Malheureusement les retours qu'on a aujourd'hui sur le covoiturage sont assez décevants pour la mobilité quotidienne, y compris des expériences pourtant très prometteuses de mettre en place des espèces de lignes de covoiturage. L'usage reste, bon, alors il y a peut-être voilà un travail de fonds à faire pour promouvoir. Et l'autre levier, c'est le vélo. Le grand levier, en fait, le grand levier, c'est le vélo. Pour réduire la dépendance à la voiture, qui est un enjeu social, hein, c'est pas juste un enjeu, enfin, je dirais juste, c'est pas juste un enjeu lié aux consommations d'énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi que ça coûte cher. Et donc, c'est aussi un enjeu social, la dépendance à la voiture. Pour le coup, les enjeux écologiques rejoignent les enjeux sociaux, sans aucune discussion. Donc, ça, c'est bien dommage d'ailleurs qu'avec la taxe carbone, on ait fait penser le contraire, alors qu'on aurait pu faire tout l'inverse. Mais voilà, le vélo. Par contre, on n'arrive pas on n'arrive pas à complètement s'abstraire de la voiture. Alors, ça, c'est clair. Mais je montrais Geneviève Pruvot parce qu'elle en parle de ce dilemme d'ailleurs, hein, de sa famille auprès de laquelle elle a mené cette enquête très approfondie. Ben voilà, et ils arrivent à réduire leur impact écologique très bas, mais ils restent malgré tout dépendants ou obligés d'avoir, pour livrer le pain, pour tout un ensemble d'activités, d'utiliser un véhicule. Donc voilà, mais il y a quand même les le alors
Alors après, derrière les autres leviers, c'est effectivement renforcer des lignes de transport collectif, mais plutôt des lignes, je dirais, principales. Alors ça peut être des voies ferroviaires. Le problème, c'est que pour coupler ça avec le vélo, ben là, on a la SNCF, elle a un peu du mal aujourd'hui. Hein. Je pense que si vous prenez le train, que vous ayez un vélo ou pas, vous constatez qu'il y a un problème de capacité par rapport à ce sujet. Mais alors, développer le vélo, hein, c'est. Mais là, on sort un peu de l'habitat individuel, parce que l'habitat individuel, on est dans le périurbain. Mais développer le vélo, c'est avoir des voies réservées. Alors, sur le ZAN, moi, je ne vais peut-être pas rentrer dans le. Si, je vais montrer ça. Alors, si ça vous intéresse, le ZAN, j'ai écrit dans La Vie des idées aussi. Alors, pour le coup, ça, c'est des articles que j'essaye de faire de fond, avec beaucoup de références, mais avec l'idée de m'adresser à un public élargi, d'étudiants, etc., qui s'appelle « L'arbre, le maire et le terrain constructible ». Donc c'est une référence à Romère, hein, et c'est alors ce film tout à fait extraordinaire sur l'aménagement d'une commune. Mais je discute donc en plus en détail le ZAN. En France, l'urbanisation, infrastructure comprise, donc route comprise, tout compris, c'est de l'ordre de 9 points du territoire. Moins de 10. Tout compris. En prenant les estimations les plus larges, vous avez peut-être vu dernièrement qu'il y avait des débats sur la manière dont l'Union européenne estime l'artificialisation. Alors là, je vous donne le chiffre estimé à partir de la base Terruti-Lucas, donc celle qui fait des points par sondage, qui est celle qui a servi à alerter sur l'idée qu'un département tous les 10 ans disparaît sous l'effet de l'urbanisation. Bien. 52%, c'est l'agriculture, 30%, c'est les forêts. Donc si on parle des sols, les grandes masses quand même, les grands enjeux, c'est agriculture et forêt. Ensuite, si tous les Français se mettaient à habiter sur 1000 mètres carrés de terrain, toute la population, donc on rase les villes, Paris, mais même Cluny, et puis on met tout le monde sur des maisons. Quand on est chercheur, on peut faire ce genre d'expérience. Hein. Ça ne pose pas trop de problèmes. Eh bien, on arriverait à une occupation du territoire en tenant compte des infrastructures, en tenant compte des commerces, en supposant justement que c'est le modèle pavillonnaire, donc ce n'est pas juste des commerces en rez-de-chaussée. Une famille, un ménage. On arrive à 10-11% du territoire, c'est-à-dire un delta de 2 points. C'est juste pour la discussion, mais ce delta de 2 points, vous le prenez sur de l'agriculture intensive. On mange un peu moins de viande et donc on a un peu moins besoin d'agriculture intensive pour nourrir des animaux qu'on mange ensuite. Et on se met à tous faire ce qui est dans le film. Je pense qu'il y a un gain écologique assez net. Et c'est peut-être plus par là qu'on descendra sous les 2 tonnes qu'en mettant tout le monde dans des appartements. Vous voyez, je discute. Donc pour moi, le ZAN est une mauvaise porte d'entrée dans le sujet. Alors, on pourra en débattre si vous voulez. Je pense qu'on aurait dû en fait appliquer la séquence ERC, qui était déjà en application pour l'urbanisme, mais on n'a pas voulu appliquer cette séquence parce qu'en fait, les agriculteurs sont opposés à la séquence ERC. Parce que la séquence ERC, c'est ce qu'ils appellent la double peine. On vous prend des terrains pour faire une extension urbaine et ensuite on va les compenser sur des friches agricoles. Je caricature, mais souvent c'est ça, pour faire une zone humide. Donc, on perd 2 fois en surface zonée en agriculture. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le ZAN qui définit le problème comme étant l'urbanisation, mais pas l'agriculture, qui considère que l'agriculture n'est pas un espace d'artificialisation. Or, comme vous le disiez, aujourd'hui, la biodiversité est plus dans des quartiers pavillonnaires peu denses, sur des grands terrains, que dans de l'activité agricole intensive. Donc, vous voyez que, d'une certaine manière, et alors, un des enjeux, alors ça, c'est ce que je montrais là, parce que le diable est souvent dans les détails. Donc vous avez le ZAN, bon, très bien. Et après, il faut l'appliquer. Donc vous avez dans les ministères, alors moi je suis chercheur, mais mon corps est géré par le ministère de la Transition écologique. Donc je suis un fonctionnaire du ministère de la Transition écologique. Donc je vois assez, et puis j'enseigne dans une école qui s'appelle le NTPE, qui forme les cadres ingénieurs des DDT, de Réal, et puis du ministère de la Transition écologique. Donc je vois bien comment on a fabriqué le machin. Donc après, il faut rendre le truc opérationnel. On dit, rendre le truc opérationnel, par exemple, c'est fixer des seuils à partir desquels on va considérer qu'un espace végétalisé est intéressant. Alors, dans le décret, là, qui a été publié en 2023 après moult discussions, par exemple, on considère qu'une surface végétalisée pourra être considérée comme non artificielle s'il y a au moins 25% de couverts arborés, premier aspect, et si elle fait au moins 2500 m². Alors, il y a quelques exceptions, mais là, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais 2500 m², ça veut dire que le jardin là, que vous avez vu, ah ben, lui, il est considéré comme artificiel. Pourquoi ? Bah parce que si on ne peut plus s'étendre sur des terres agricoles qu'on préserve, pour, je comprends le débat, hein, bien sûr, mais si donc on préserve les terres agricoles, eh bien, il faut bien qu'on puisse continuer à construire des logements. Alors, il y a un grand débat sur combien il faut en construire, jusqu'où on pourrait réutiliser les logements qui existent. On pourrait, voilà, il y a une grande discussion dans l'esprit de ceux qui font les textes et qui gèrent les politiques d'aménagement et d'urbanisme. Il faut quand même pouvoir construire quelques logements. Et donc, l'idée, c'est pour ne pas étendre la tâche urbaine, là où il y a de la réserve foncière, c'est justement dans les quartiers pavillonnaires. On va densifier le pavillonnaire. Vous avez peut-être entendu parler du BIMBY. Voilà, Built in my backyard. C'est une marque. Hein. Et donc, c'est cette idée-là. Donc, on a fixé à 2500 mètres, parce que si on avait mis le seuil à 500, on aurait préservé tous les jardins et on n'aurait plus y construire. Vous voyez, ce genre de discussion est en fait qui vient se percuter ce que je viens de vous montrer. J'étais un peu long pour répondre.
Alors, j'avais vu trois prises de parole.
Oui, merci. Je trouve super intéressant l'exemple du potager comme objet de lien entre les écolos des villes et les écolos des campagnes, en fait. Parce que, puis l'exemple que vous donnez sur le fait qu'il y a plus de gens qui font leur potager que de gens qui vont travailler à vélo. Nous, quand on parle de l'écolo, on entend souvent l'écolo des villes, et donc le bon écolo, il est en vélo. Mais celui qui fait un potager, c'est pas vu comme. Et je trouve que sur cet objet-là. Il y a une passerelle qui se noue entre les ruraux ou les vrais périurbains et puis les citadins, c'est-à-dire qu'on peut on peut discuter autour d'un potager beaucoup plus facilement de l'écologie que sur plein d'autres objets. Après, ce que je me demandais, c'est en quoi le modèle qu'on vient de voir ici, il est souhaité par les gens qui sont dans le périurbain. Et pour moi, dans ce que je perçois des campagnes avoisinantes de Lyon, il est. Alors celui-là oui, parce que celui-là c'est un vrai gars de la campagne avec des vrais légumes qui sont bien rangés, c'est propre. Voilà. Mais l'autre c'était sale. L'autre, le campagnard, il va dire c'est dégueulasse ton jardin. Là. Et il y a une version de la conception du jardin qui doit être totalement artificialisée, en tout cas totalement maîtrisée, la nature doit être totalement domestiquée. Moins il y a de biodiv, mieux c'est quelque part dans le jardin standard de la campagne, la parcelle de 1500 m² de gazon tondu. Tous les arbres plantés sont des espèces exotiques. Hein, y a, si c'est une haie domestique fleurie, c'est un truc bizarre. Et on repère la maison de campagne parce que c'est le jardin en bordel. En gros, quelque part, il y a un côté, si c'est pas tout tondu, tout rangé, c'est pas bien. Et sur le lien social derrière, c'était là que je voulais aller, j'ai l'impression qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, j'ai acheté en périurbain parce que je veux pas m'emmerder avec les autres gens. » Et je ne veux pas dépendre d'eux. Et donc, dans le fait, ne serait-ce que d'aller emprunter un outil, la tondeuse à gazon, tout le monde a sa tondeuse, alors tout le monde l'utilise en même temps, mais le partage d'objets, j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'indépendance qui va vers l'autarcie. Et je pense qu'en fait, on a perdu le lien social dans beaucoup d'endroits comme ça, avec une volonté d'autonomie, je ne voudrais pas faire de la socio à deux balles, mais peut-être parce qu'avant, il y avait des corvées collectives dans le monde rural qui étaient vécues comme obligatoires et que là, ils ont une possibilité de s'autonomiser complètement. Mais tout le message sur la fin qui est super chouette de dire on fait de la résilience pour résister au choc parce qu'on se connaît. Donc on discute pas de politique, on fait des confitures ensemble et comme ça on peut s'entraider. Je trouve ça hyper intéressant pour travailler dans les banlieues des villes et dans le territoire rural, mais je sais pas en quoi c'est une aspiration.
Avant que le micro là-bas arrive, je réponds très vite, mais oui, c'est clairement la question de l'aspiration des ménages, elle est centrale et c'est un travail. Mais alors un travail politique, mais ça veut dire que donc il y a des responsables politiques, des partis, des forces politiques qui s'emparent du sujet et qui font le travail pour construire des alliances. C'est un vrai sujet. Il y a Maxime Marie qui est un collègue de géographie sociale à Caen qui fait des enquêtes sur les pratiques potagères et il y a une vraie tension entre ce type d'hommes parce que c'est souvent une affaire d'hommes retraités, les grands potagers, et puis des jeunes qui se lancent dans la permaculture et puis qui croient en plus que ça va tout pousser tout seul, parce que c'est ce qu'on nous dit avec la permaculture, et ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, et effectivement, il y a la question de l'ordre, là, voilà, on est au cordeau, alors que dans les buttes, les machins, puis souvent les mauvaises herbes prolifèrent, enfin voilà, il y a tout un tas de tensions qui se font autour de ce sujet-là. Sur la question du voisinage, alors c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette vidéo, il y a 4 ou 5 études de cas. C'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est cette logique collective qui se met en place. Et je dirais quand même que, contrairement à ce qu'on pense souvent, parce que c'est vrai que le pavillon, beaucoup de gens disent « je ne veux plus être avec mes voisins ». Parce qu'en fait, les voisins, ils nous emmerdent, ils font du bruit, l'habitat collectif, on n'est pas, on n'arrive jamais à être d'accord, c'est plein de problèmes. Mais en fait, quand on regarde après, il y a très fréquemment il y a beaucoup de liens, en fait. Notamment parce que c'est quand même un habitat assez familial et au travers des enfants, il y a quand même beaucoup de liens. Donc là aussi, il y a un travail à faire, un travail qui là aussi est politique, mais il y a quand même une base qui est loin d'être négligeable. Et j'ai travaillé avec des collègues sociologues pour le coup sur une enquête sur le voisinage. Il y a un bouquin qui est sorti, il s'appelle « Ce que voisiner veut dire », et dirigé par Jean-Yves Autier et Joannie Caillouette-Ramblière. Et on montre que en fait, les relations de voisinage dans l'habitat individuel ne sont pas forcément plus faibles qu'ailleurs.
Oui, je voulais juste revenir sur l'exemple australien. Donc, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Campement Urbain. On a été Grand Prix d'urbanisme en Australie avec un travail sur la ville de Penrith, dans la banlieue de Sydney, 40 km de Sydney. Donc, moi, je voulais juste ramener des problèmes d'échelle. Donc, Penrith, c'est une ville de 160 000 habitants. On peut y mettre 10 fois Paris et 6 fois Manhattan. La moyenne par habitant, je ne parle pas par famille, c'est 140 mètres carrés par personne. Pour les maisons. Donc, ce qui permet d'expliquer aussi l'espèce d'ampleur incroyable qu'on a dans ces villes périphériques australiennes, sachant aussi que l'Australie, c'est 6000 km sur 4000 et c'est 20 millions d'habitants. Donc, ça vous raconte aussi la question de la densité et la question de la place dans les villes. Donc, pourquoi je raconte ça? Parce que d'une certaine façon, on a aussi une histoire en Europe qui est celle d'un habitat individuel qu'on peut très rapidement lier aussi à l'habitat populaire ou l'habitat ouvrier depuis le début du... Enfin, fin 19e, début du 20e siècle, avec les cités-jardins, les Siedlungen en Allemagne, les projets de villes industrielles en Angleterre comme Port & Light, etc., où effectivement se pose la question de la densité et de l'homogénéité sociale. Et ce qui est intéressant dans notre projet en Australie, c'est qu'on a essayé de travailler sur la question, on pourrait dire, de la densification, mais non pas dans une logique construite, dans une logique de diversification d'usage. Parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'un des problèmes de la suburbia, comme on l'appelle aux États-Unis ou qu'on l'appelle dans les pays anglo-saxons, c'est effectivement un monopole ou une mono-utilisation, un peu comme une agriculture qui serait non pas intensive, mais extensive, qui prend des très grands territoires pour des rendements assez faible et pour des monocultures. Et on a un petit peu la même chose dans la forme d'urbanisme et qui implique évidemment des déplacements pendulaires extrêmement importants. Par exemple, à Sydney, il n'y avait pas eu de réserve foncière, donc les autoroutes s'arrêtent à 10 km de la ville et ensuite les gens rentrent dans la ville et c'est des millions de personnes tous les jours par le biais d'un lacis de ruelles avec des embouteillages et un enfer pour les habitants qui habitent autour. Et je crois que, dans une moindre mesure, on est parfois dans la même situation dans les systèmes en Europe, et notamment en France, quand effectivement il n'y a pas de réseau dense de transport en commun qui permettent de gérer ça. Et on se rappelle tous, dans la banlieue parisienne, l'émergence du pavillonnaire, c'est les lignes privées de train à la fin du 19e qui permettent de lotir des parties du territoire non construit grâce aux lignes de train privées qui partaient des différentes gares parisiennes et qui permettaient de faire ça. Donc la question pour moi, elle est de connecter aussi cette espèce d'idéal de la maison individuelle qui est effectivement référée par tous les Français avec d'autres exemples qui sont par exemple certaines opérations de Bruno Taut à Berlin juste avant la Deuxième Guerre mondiale qui dissociaient le jardin de l'habitat. Qui fait qu'effectivement, il y avait des zones de jardin individuelles, mais qui, grosso modo, étaient comme un parcellaire de jardin et un habitat qui était en périphérie de ces jardins, qui permettait de fabriquer du bien social, mais qui permettait aussi de fabriquer une diversité, on pourrait dire, paysagère et une biodiversité aussi, par ce biais-là. Et je crois aussi que l'enjeu économique dont vous avez parlé sur la production de légumes, etc., est totalement compatible avec ces éléments. Et je crois qu'un enjeu aujourd'hui très fort qui est très peu parlé, et c'est effectivement ce lien entre un usage social de, on pourrait dire, de l'habitat individuel avec ce qu'il permet en termes de ressources et une approche écologique qui, elle, a peut-être parfois d'autres références que strictement cette approche sociale. Et j'aimerais que vous nous indiquiez vos axes de recherche par rapport à cette question, si on est sur une histoire un peu plus longue que celle très récente de l'émergence de ce pavillonnaire périurbain et la façon dont on peut le transformer.
Sur l'histoire, on a quand même une littérature assez abondante, donc j'ai tout un tas de collègues bien plus qualifiés que moi qui travaillent sur cette question de l'histoire, mais sur des modèles, alors oui, d'ailleurs je le disais, la traduction, hein, l'idée de traduire rétro-suburbia, ce serait d'aller prendre des... Et en fait, moi j'ai lancé un projet de thèse pour essayer d'explorer ce qui se fait, et qui pourrait être puis d'autres dans des écoles d'architecture. On parle quand même, il y a pas mal de gens qui parlent de ces questions-là aujourd'hui, avec l'idée d'explorer un peu des pratiques et comment les mettre dans le contexte européen et français. Alors en Europe, il y a une opération qui s'appelle Osterworld aux Pays-Bas, et c'est de l'extension pavillonnaire, habitat individuel, mais les gens sont obligés de cultiver la moitié de leur terrain. Et s'ils ne le cultivent pas, il y a quelqu'un qui vient le cultiver à leur place. Ça, c'est une idée assez, assez intéressante. Bon, après, ce serait une longue discussion et puis il y a plein d'autres questions. Merci en tout cas pour votre...
Bonjour, je m'appelle Thomas Pellerin-Carlin, je suis député européen Place Publique. Mais il y a 3 ans, j'étais encore chercheur et je me suis retrouvé face à Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Et on a présenté avec d'autres scientifiques nos travaux, variation des modes et compagnie. Et à la fin, elle, ce qu'elle en a retiré, c'est la phrase suivante à laquelle je vais vous demander de répondre parce que moi, je n'ai pas su quoi répondre. Elle a dit « Oui, c'est bien mignon, mais toutes vos solutions sur la question climatique, c'est pour les urbains. Dans la France pavillonnaire, c'est beaucoup plus compliqué. » Donc ma question, c'est de votre point de vue, à quel point c'est plus compliqué de faire la transition écologique dans des habitats urbains ou dans une France pavillonnaire ?
Ma réponse, c'est que c'est politique. Alors, par exemple, il y a un discours sur le périurbain. Le périurbain serait acquis, quand il vote, il serait acquis au Rassemblement national. Mais il y a même une théorie portée par un géographe très connu, c'est un des plus connus en France, il s'appelle Jacques Lévy. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros il dit si on vote Rassemblement National dans les quartiers pavillonnaires, c'est justement parce que l'idéologie du Rassemblement National, elle correspond ou elle converge avec ce qui vous pousse à faire ce choix de choix, c'est-à-dire l'individualisme, le fait de se déplacer en voiture plutôt qu'en transport en commun, le fait de ne pas avoir trop de relations avec les voisins, si possible en plus des voisins qui sont un peu tous comme vous parce que toutes les maisons sont pareilles, enfin voilà. Et puis un rejet des espaces publics, de la diversité, de tout ce qui fait la valeur de la vie dans les 100 grands centres urbains denses. Alors, ce serait très long de rentrer dans cette discussion. Alors là aussi, il y a des articles dans la Vie des idées sur ces questions, si ça vous intéresse, qui sont un peu plus anciens, ils ont une douzaine d'années. Mais c'est un exemple. C'est que le Parti communiste, par exemple, en France, a certaines de ses bases électorales en banlieue parisienne ont été dans des communes pavillonnaires. Notamment, vous parliez de ces lotissements qui sont développés autour du train, d'ailleurs pas autour de la voiture au départ, mais des lotissements populaires, des ouvriers qui achetaient à tempérament des terrains et puis qui ensuite construisaient des cabanes qui devenaient des logements. Oui, alors il y a Loucheur et puis bon. Mais... L'idée, c'est de dire, regardez, le Parti communiste a constitué ses bases là. À Goussainville, il est resté au pouvoir jusque assez tard dans le XXe siècle, par exemple. Alors, il y a un document, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il n'y a pas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout une affaire de codage politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte aux gens et qu'est-ce qu'on leur propose. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous proposez aux habitants des pavillons que vous leur dites de toute façon, la réponse aux crises écologiques, c'est abandonner vos maisons et entassez-vous dans des appartements, allez-y. Là, c'est terre de mission pour le coup. Après, vous leur dites, c'est bien vos maisons, mais quand même, reconnaissez quand même que votre jardin, là, il est complètement imperméable, la biodiversité, c'est rien, et on travaille là-dessus. C'est peut-être le potentiel est peut-être un petit peu plus... Mais c'est un travail après, hein. C'est que moi je suis chercheur, je raconte ça, bah, c'est bien que vous soyez là, on échange, on partage, mais après, oui, il va falloir convaincre les gens, oui, ça c'est sûr. Ça reste une terre de mission, oui. Même avec un discours plus favorable à l'habitat individuel.
Bon, je suis désolé malheureusement pour les... J'avais vu un peu d'autres mains se lever, mais pour des questions de temps, on va devoir s'arrêter là. Je voudrais encore vous remercier d'avoir assisté à cette discussion, remercier Eric Charme. Si vous voulez vous, continuer un petit peu de vous informer sur le sujet, donc il y a tous les articles qui ont été mentionnés sur la vie des idées, vous en avez écrit de nombreux passionnants. Vous contribuez aussi au site spécialisé foncier en débat, et notamment il me semble que pour prolonger la discussion sur le ZAN, ça peut être intéressant. Et j'en profite aussi pour vous dire, avec la Fondation de l'écologie politique, on a aussi abordé une partie de ces sujets. Il y a nos publications à l'entrée du coup de la salle des écuries, où on a notamment une série l'écologie depuis les ronds-points sur les gilets jaunes et l'écologie depuis les ruralités, où on a compilé des travaux de chercheurs et de chercheuses qui prolongent aussi ces questions. Donc n'hésitez pas à aller en chercher. Et je vous remercie. Bonne journée.